Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.
Bonjour, je suis Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens et j'ai plaisir aujourd'hui, pour ce nouveau podcast autour de l'aventure de la création, de l'invention du musée du Louvre-Lens, à recevoir Henri Loirette. Henri Loirette, vous avez été président-directeur du musée du Louvre de 2001 à 2013 et Daniel Percheron, vous étiez président de la région Nord-Pas-de-Calais de 2001 à 2015. Alors 10 ans après son ouverture, le musée du Louvre-Lens reste aujourd'hui un objet très observé de révolution muséale, de révolution politique, culturelle, économique et architecturale. Le résultat d'un pari territorial audacieux pour la région qui passait par la culture et celui également d'un pari culturel pour le Louvre qui a su penser ce Louvre autrement. L'objectif de ce nouveau podcast est de revenir sur la genèse de ce geste culturel inédit avec ses pères fondateurs, comme j'aime à appeler nos deux invités. Comment s'est créée cette communauté de vues, cette synergie qui ont permis la réalisation de ce projet un peu fou, il faut le dire, qui faisait et qui fait encore aujourd'hui débat.
En fait, c'est une plus vieille histoire que ce que dit la doxa maintenant, c'est-à-dire une prescription en quelque sorte du ministère de la Culture. Je me souviens lorsque j'ai été pressenti pour être nommé à la tête du musée du Louvre, Jacques Chirac m'a reçu et m'a demandé de développer quelques projets que je pouvais avoir pour cet établissement. Et parmi les projets que j'ai pu égrener, il y avait le département des arts de l'islam, il y avait bien d'autres choses. J'ai cité effectivement une action très forte en région, sans préciser exactement ce que ça pourrait être, ni où ça pourrait être, mais la volonté de renouveler en quelque sorte cette disposition qui avait été depuis l'origine, depuis la Révolution française, au cœur même des préoccupations du musée du Louvre, d'être un musée national, c'est-à-dire un musée dont les compétences, dont le savoir-faire, dont les collections n'étaient pas uniquement à Paris, mais étaient réservées véritablement à l'ensemble du territoire. Ce que Chaptal, ministre de Napoléon, appelait de la belle formule, de la part sacrée que le musée du Louvre devait au musée de région. Voilà. Puis ensuite, il y a eu déterminante, je dirais, la rencontre avec Daniel Percheron. Il va nous raconter comment ça s'est passé, parce qu'il en a un souvenir plus précis que moi. Et puis, il se trouvait effectivement que, conjonction heureuse, cela s'intégrait dans une politique qui était alors celle du ministère de la Culture et de Jean-Jacques Caillagon. Mais c'est vraiment comme ça que se sont passées les choses.
Alors, fin 2003, ce sont 7 villes qui répondent à l'appel, et parmi elles, 6 sont issues de l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais. Quelle a été, Daniel Percheron, votre position politique et personnelle par rapport à ces candidatures, à ce concours? Est-ce que ces villes, je les cite, Lens, Boulogne-sur-Mer, Calais, Valenciennes, Arras et Béthune, vous les aviez sollicitées? Est-ce que par ailleurs vous aviez un choix du cœur parmi elles? Et puis j'ajouterais, vous étiez à la tête d'une région qui était l'une des plus belles régions de musées en France. La région des musées d'ailleurs, avez-vous pu la surnommer. Quel était le sens du coup de vous engager dans cette aventure?
Il y avait un contexte, vous venez de le rappeler. Il y avait Jean-Jacques Caillagon, sous l'autorité de Jacques Chirac, et cette idée de la décentralisation des grands musées, des grands établissements nationaux. Et puis il y avait Lille 2004, capitale de la culture, agitée avec talent par M. Fusillet, oui, et relayée implacablement auprès de nous, et notamment de la région, par le maire de Lille, Madame Aubry. Et à l'occasion de Lille 2004, nous avions bricolé en région, malgré les réserves de la réunion des musées, les beffrois de la culture, c'est-à-dire l'arrivée des chefs-d'œuvre de l'art français dans les villes qui n'avaient jamais eu de musée, donc dans les villes industrielles du Nord-Pas-de-Calais, qui semblait éloigné de la magie culturelle. Et dans ce contexte, j'ai rencontré Henri Loirette. Bien sûr, j'ai levé la tête, parce qu'Henri Loirette est très grand. C'était le grand président-directeur du Louvre. Et je lui ai posé cette question très simple, après avoir lu un simple entrefilet dans Le Monde. Je crois qu'il faisait 4-5 lignes. si je posais la candidature de Lens pour accueillir l'antenne du Louvre, c'était la formule de l'époque, est-ce que je serais ridicule? Et Henri Loirette, vous venez de l'entendre, hein, avec toujours cette maîtrise de la dimension du Louvre et de ses obligations à l'égard de la nation, m'a répondu non, pas du tout. Et il a ajouté un encouragement exceptionnel, au contraire. Au contraire. Ce qui fait que j'ai demandé rendez-vous au ministère de la Culture, j'y suis allé, on m'a dit gentiment, bon, vous pouvez vous engager, mais il est vrai que nous, nous pensons, si vous avez votre région comme candidate à Calais, hein, c'est là où sont les flux de voyageurs, et puis peut-être que un plafond de 20 millions pourrait vous convenir. Et j'ai répondu à l'époque exactement, si le Louvre vient dans ma région et à Lens, il n'y aura pas de limite financière à notre engagement. Parce que j'avais été impressionné par Henri Loirette, je l'avais entendu, et l'intuition me disait que ça pouvait être une grande aventure. Et à partir de là, bien sûr, j'ai fait acter par mon conseil régional, un peu hésitant, un peu flatté et un peu ambitieux, que nous allions vraiment poser notre candidature. Et des villes se sont éveillées à la candidature, notamment Amiens, la ville du ministre de Robien, et Valenciennes, la ville de l'enchanteur ministre Jean-Louis Borloo. Mais il est vrai que le premier dialogue qui relevait plus de Tacite que de Victor Hugo, hein, bien sûr, non, vous ne seriez pas ridicule. Au contraire, moi, m'a servi de fil rouge, de guide. Et je pense d'ailleurs que le président directeur général du Louvre n'a jamais changé d'avis non plus.
Hein. Non, et puis
le pari lui semblait l'ensoir avant
dites,
tout.
Ce que vous dites, Daniel, c'est vrai qu'il y a eu au départ, de votre côté comme du mien, une sorte d'intuition.
Oui.
C'est-à-dire que moi, je ne connaissais pas Lens. Lens, mais c'était un nom, et c'était un nom qui signifiait quand même une ville ravagée par toutes les crises et par toutes les guerres. C'était véritablement quelque chose dont on savait, dont on pensait que la culture était absente, ou n'était pas là en tout cas. Et qu'il y avait, dès le départ, je dirais, puisqu'on cherchait un territoire où s'implanter, quelque chose qui nous appelait, je dirais, auquel on devait, d'une certaine façon, réparation. Ce n'était pas uniquement dans cet objet de contrition que nous allions, mais ça nous éveillait, ça nous appelait, effectivement. Et je le dis tout le temps, et je l'ai dit ensuite, Louvre Aix-en-Provence n'aurait eu aucun sens, on le comprend bien. Mais il y avait dans ce rapprochement simplement de Louvre et de Lens une espèce de déflagration qui se produisait, qui immédiatement disait l'objet de ce que nous faisions. Et ça, c'était très, très, très important. Et j'ai toujours remercié Daniel Percheron, parce que tout est né de cette rencontre, il faut le dire. Et elle s'est poursuivie tout au long de la gestation du chantier sur ce même pied, d'avoir proposé cela, parce que c'était effectivement l'endroit où devions nous poser.
J'ai une question, d'ailleurs, il y a une question que je me pose fréquemment. C'est dans le premier projet scientifique et culturel du musée du Louvre-Lens, il y avait une portée sociale très, très importante, très affirmée, que nous avons d'ailleurs poursuivie et approfondie avec les années. Et est-ce que cette vocation précédait finalement, dans cette envie d'un Louvre autrement, le choix de l'implantation de Lens, ou est-ce que quelque part elle en est née?
Elle l'accompagnait parce que c'était aussi quelque chose qui n'était pas absent de nos préoccupations parisiennes. On ne pouvait pas dire véritablement la question sociale ne se pose qu'en dehors de Paris. Et c'est vrai que déjà avec Catherine Guillou, par exemple, que vous avez interrogée et qui a joué aussi un rôle essentiel dans cette affaire, nous nous demandions comment, je dirais, toucher un public qui pourrait être lointain en quelque sorte des musées, pour les qui pensaient que le musée n'était pas fait en quelque sorte pour eux. Et tout le temps cette idée de prendre par la main en quelque sorte ceux qui étaient réticents à cette venue au musée. C'est toute l'action que nous avons développée avec les classes Louvre, avec les prisons aussi, plus tard avec les hôpitaux. Donc cette dimension sociale était importante dans le Louvre Paris. Mais très tôt, effectivement, on le savait, en plus de ça, comme Daniel Percheron l'a rappelé, sur ce territoire précisément, cette question sociale se posait encore avec plus d'acuité, je dirais. Mais toujours, il y a eu, et ça c'était aussi quelque chose d'important dans le développement de son projet, et puis je dirais, j'espère aussi dans la vie, et dans la vie qu'il continue à mener aujourd'hui, cette idée d'une interrogation, d'une interaction, pardon, continue entre le Louvre et le Louvre-Lens. C'est-à-dire que le Louvre-Lens, par son agilité, par sa dimension, par son implantation sur un territoire nouveau, permettait de tester en quelque sorte des solutions qui pouvaient et qui devaient ensuite, si elles étaient viables, si elles étaient pertinentes, être implantées dans le palais parisien, dont la réaction, évidemment, compte tenu de ses dimensions, de son histoire, était beaucoup, beaucoup plus lente. Donc il y avait et ça m'a toujours frappé parce que le Louvre-Lens, je l'ai vu là, revenant avec émerveillement devant le bâtiment de Sanaa, c'est au sens propre et au sens figuré une histoire de réflexion, je dirais ça. Le reflet joue beaucoup. Il y avait cette réflexion, effectivement, entre le Louvre et le Louvre-Lens qui a conduit véritablement aussi cette politique sociale.
Alors, le Louvre se présente aujourd'hui sur trois sites, si l'on peut parler ainsi. Paris, bien sûr, Lens et puis Abu Dhabi, qui a ouvert 5 ans après le Louvre-Lens. Comment les choses se sont passées? Dans quelle chronologie? Est-ce que le projet d'Abu Dhabi existait déjà au moment du choix du site de Lens?
Non, le projet d'Abu Dhabi est venu plus tard. Le projet Abu Dhabi recoupait une volonté que l'on avait, une volonté internationale. Là, comme je dirais, dans les relations que l'on a eues avec le ministère de la Culture sur le Louvre-Lens, c'est une proposition émiratique qui nous est arrivée, qui nous est tombée dessus, que j'ai d'abord regardé d'un œil assez méfiant, jusqu'au moment où on a pu, en quelque sorte, la formater, la mettre à notre main, et pour notre plus grand bonheur, en tout cas pour le plus grand bonheur des musées français. Mais il s'est trouvé, ça Daniel le rappelait tout au long aussi de la construction du Louvre-Lens, dans cette idée, je pense que ce serait important que vous en parliez, Daniel, des villes Louvre, en quelque sorte, de ce réseau, en quelque sorte, du Louvre, dans lequel était inclus Lens, qui n'était pas uniquement un réseau national, mais aussi un réseau international. Donc il y avait la volonté de construire cette toile, en quelque sorte, dans laquelle participaient pleinement et Lens et Abu Dhabi. Donc les choses se sont faites de façon tout à fait harmonieuse, en pesant d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qu'il fallait aussi regarder attentivement, ce que ça sollicitait des équipes du Louvre, des équipes en termes de ressources humaines, mais aussi des œuvres, puisqu'à chaque fois, il s'agissait effectivement de prêter des œuvres du Louvre.
J'écoute toujours avec le même plaisir Henri parler du Louvre-Lens, hein, parce qu'à chaque fois, il réalise la synthèse. Bien entendu, c'était un projet politique. L'arrondissement de Lens était, avec celui de Longwy, celui qui fabriquait le moins de richesses en économie de marché. Cette nébuleuse minière qui a pour capitale Lens avait été propriété d'une grande entreprise publique. Cette grande entreprise publique possédait les villes, possédait les stades, possédait les théâtres, possédait les salles, possédait les églises. Et elle avait été rapidement, à partir des années 60, structurellement déficitaire. Et les polytechniciens qui s'étaient succédés à la tête des charbonnages n'avaient qu'une idée, quitter en quelque sorte le bassin minier, le Nord-Pas-de-Calais, structurellement déficitaire, et ménager l'avenir, généralement aussi, de leur propre carrière. Et donc nous avions souffert de l'indifférence du capital d'État. Les houillères sont partis, ne se sont pas retournés, sont partis tranquillement, sans un projet, sans un labo, sans une feuille de route, et nous ont dit, bon ben voilà, hein, il n'y a plus de charbon, on n'a plus de raison d'être là, débrouillez-vous. Nous, socialement, on continuera à payer les retraités et à laisser les maisons aux retraités. Donc, dans l'arrivée du plus grand musée du monde d'Henri Loirette, il y avait aussi cette idée, au-delà de l'économie résidentielle, de l'économie des loisirs, de l'attractivité du territoire, que l'arrivée du Louvre, de cette marque mondiale, de ce succès mondial et de cette préoccupation territoriale si bien affirmée, marquait la fin de l'hiver. La fin de l'hiver, j'avais moi-même obtenu que nous prenions en charge le Stade Bollard pour la Coupe du Monde 98. Ça avait été fait. Et par conséquent, Lens avait accueilli la Coupe du Monde et le but en or de Laurent Blanc devant les caméras du monde entier. L'arrivée du Louvre, sur ces 2 km², symbolisait la volonté à l'heure de la mondialisation dans le territoire le plus pauvre de France, oui, la volonté de continuer à espérer et à se développer. Et je dois dire qu'on aurait pu tomber sur un Louvre tel qu'en lui-même, prestigieux, mais relativement étranger, et grâce à la personnalité de son président-directeur, on est tombé, vous venez de l'entendre, sur un Louvre qui était en communion avec nous. En communion avec nous, sans rien perdre hein, de ce label, de ce savoir-faire et de cette part sacrée vis-à-vis de nous qu'il considérait dans son ADN et dans sa raison d'être.
Mais ce n'était pas uniquement un beau geste, je dirais, de la part du Louvre. Le Louvre avait beaucoup à apprendre et ça rejoint la question de Marie Lavandier d'une expérience à Lens, effectivement. La spécificité du territoire, son histoire que vous venez de rappeler, tout ce que l'on pouvait apprendre en quelque sorte de cette région, de ses habitants, de la façon dont ils appréhendraient ce musée à partir du moment où on présentait autrement les collections du Louvre, était captivant pour nous. Et je dirais, ça, c'était véritablement aussi dans notre démarche quelque chose d'essentiel. C'était pas uniquement faire la charité ou avoir un beau geste. C'était véritablement, nous étions aussi intéressés, profondément intéressés à ce projet. Et c'est ce qui fait qu'il a marché. C'est que chacun y trouvait son compte.
Et surtout, ce que vous avez rappelé à chaque intervention, Henri, c'était très important. Hein. À chaque intervention, comme vous venez de le faire, vous avez rappelé que la démarche était peu ordinaire, était profondément sincère, était original, oui, et était en quelque sorte mutualisé. Hein. Le Louvre-Lens a beaucoup à apprendre de Lens, et le Louvre aussi. C'était tout à fait remarquable.
Le Louvre-Lens. Du rêve à la réalité.
Écoutons à présent le témoignage d'Elisabeth Watine, présidente d'A2L, l'association des Amis du Louvre-Lens, qui a su réunir, au moment de la candidature de la ville de Lens, plus de 8000, non seulement signatures, mais messages d'appel, d'espoir en la faveur de l'installation de ce Louvre à Lens.
À partir du moment où nous avons su que la mairie de Lens proposait un dossier pour obtenir le Louvre, et que ce dossier était très très valable sur un plan technique, pratique, etc. Nous nous sommes dit pourquoi pas, oui pourquoi, on pourrait rêver après tout, ça peut être une utopie, mais non, ça peut être aussi une réalité possible. Donc si nous pouvons donner un petit coup de pouce pour avoir ce musée, allons-y. D'une part, nous avions insisté sur le fait que notre démarche était essentiellement citoyenne et fédératrice, hein, on n'avait pas d'autres ambitions, et on voulait aussi beaucoup sensibiliser la population jeune, puisque on se disait que c'était un sacré atout pour les générations futures, évidemment. Hein. Donc les étudiants sont pas mal mobilisés aussi, c'est pour ça d'ailleurs que des livres d'or ont été mis dans les collèges et les lycées.
Alors vous le disiez, le Louvre-Lens, je crois qu'il s'est fondamentalement créé dans cette interaction avec les habitants, avec le territoire et avec ce mouvement d'espoir et d'expression de rêve de musée qui était quand même, rappelons-le, à l'époque totalement incroyable. Je pense que tout le monde aurait imaginé que les habitants de Lens auraient préféré qu'on leur amène une usine ou quelque chose qui pourrait peut-être un jour remplacer en matière de production directe d'emploi les charbonnages de France et les mines de charbon. Ces messages, je les ai toujours dans mon bureau. Ils sont derrière moi. Je voulais juste vous en lire quelques-uns. Alors, ce sont donc des milliers d'enfants, de familles, d'étudiants qui ont écrit. « Notre terre, si noire jadis, s'illumine désormais de ces pépites qui remontent à sa surface. Notre sol si riche sera, nous en sommes sûrs, un terreau extraordinaire et fertile pour le nouveau Louvre. Faites-nous confiance, confiez-le-nous. » C'est une citation d'une famille, la famille Duvivier, Françoise, Jean-Paul et Julien, qui habitent à Lens. « J'aime les statues dans les livres, à la télé, mais ce serait beaucoup mieux de les voir en vrai. J'aimerais bien voir des statues pour de vrai. On compte sur vous, Juliette, Myriam, Camille et Amandine, écolières, 10 ans. Paris, le Louvre,
autant de noms qui évoquent l'art, le rêve, autant de choses inaccessibles pour nous, habitants du bassin minier, excepté les rares visites pour quelques-uns d'entre nous, bien chanceux d'avoir accès à la culture française. Ce serait donc avec un immense bonheur que nous accueillerions l'annexe du Louvre, ici à Lens. Cela permettrait à un grand nombre d'accéder enfin à l'histoire de la culture de notre pays. Et bien loin d'être les seuls bénéficiaires, les Lensois seraient fiers d'accueillir toutes les personnes désireuses de rêver le temps d'une visite. Et c'est Élodie, qui était lycéenne à l'époque, qui a écrit ce message. Quelle part, peut-être même d'ailleurs dans le choix du site, a eu cette mobilisation exceptionnelle, ce formidable engagement humain, local, en faveur de l'arrivée du musée, Daniel Percheron?
Ah ben je pense que c'est la seule ville qui a associé sa population et qui s'est vraiment mobilisée globalement, totalement. Par exemple, les Calaisiens n'ont pas embrayé. Les Valenciennois, qui étaient grâce à Jean-Louis Borloo en voie de réussite, de reconversion, ont fait acte de candidature. Les Arrageois n'y ont vraiment pas cru. Par contre, les Lensois ont bien considéré que le miracle pouvait avoir lieu. Et ça explique d'ailleurs le dialogue avec Henri Loirette, avec le Louvre. Ils ont été présents et fidèles au rendez-vous.
Ils ont été présents, ça m'a fait frapper dès les premières visites.
Hein. Dès les premières visites.
On était attendus. Renaud de Nodieu de Fabre rappellera les trois dames de Lens, en quelque sorte, qui sont devenues quasiment mythiques dans l'histoire de Lens. Mais elles n'étaient pas seules, elles avaient toute une population derrière. L'enthousiasme de Guy Delcourt aussi, qui a énormément compté. Le maire était pour, et je dirais vraiment pour, c'est-à-dire a toujours été très très présent dans cette affaire. Et c'est vrai que c'était une chose qui était extrêmement stimulante et réconfortante, en tout cas pour nous, parisiens.
À cet accompagnement, il s'est d'ailleurs poursuivi pendant tout le développement du projet. Je vous propose d'écouter Arnaud Debève, qui était médiateur à la Maison du Projet.
Sans conteste, je pense à la pose de la première pierre le 4 décembre 2009, pose de la première pierre du Louvre à Lens, et c'est aussi l'inauguration de la Maison du Projet. Donc c'était enfin, on pourrait dire, le rêve qui se concrétisait de voir ce musée qui allait se matérialiser sous les yeux des riverains, mais aussi sous les yeux quasiment du monde entier. Qui aurait pu penser que le Louvre allait s'installer à Lens? C'est une chance pour le territoire, et puis pour ceux qui y travaillent, c'est aussi une chance et une sorte de privilège, en quelque sorte, de pouvoir admirer des chefs-d'œuvre quasiment quotidiennement. Donc voilà, c'est une véritable chance.
Alors comment justement le Louvre s'est engagé face à cette dynamique d'appropriation?
Juste une chose, Marie, en entendant ce témoignage, moi ce qui me frappe, parce que j'ai complètement oublié les dates, enfin je ne les fixe pas très, très, très précisément, 2009 et on ouvre 4 ans plus tard, ça a été très vite. Je veux dire, c'est un chantier qui a été construit, je dirais, de l'idée initiale que nous avons eue, cher Daniel, dans le cadre de 2004, à l'inauguration en décembre 2013. C'était un sans faute aussi de ce point de vue-là, quand on voit tant de chantiers qui s'enlisent, qui n'en finissent plus, qui connaissent des surcoûts, des dérives, etc.
Et sans un centime de dépassement.
Voilà, donc ça, c'était pas mal. C'était pas mal.
Comment justement le musée du Louvre s'engage face à cette dynamique d'appropriation par les habitants?
Alors ça, c'est une bonne question, parce que le Louvre, c'est une grosse machine. C'est beaucoup, beaucoup de gens. Il faut mobiliser toutes les équipes, parce que ce n'est pas uniquement l'affaire des départements de conservation, même s'ils sont essentiels, c'est aussi tout ce qui est médiation, tout ce qui est, je dirais, programmation, les constructions, la construction, le bâtiment, etc. Donc c'est une lourde affaire. Et faire comprendre à tout le monde que c'est un chantier prioritaire, qu'ils doivent se mettre dessus alors qu'ils ont quand même pas mal de travail par ailleurs à faire dans le palais parisien, ça a été, je dirais, se mettre en ordre de marche a été un tout petit peu compliqué. On a constitué une équipe avec avec plusieurs responsables qui se sont succédés. Il y a eu Olivier Mellet, par exemple, pendant un certain temps, qui est ensuite passé aux États-Unis. Quelques conservateurs, comme Marielle Pic, par exemple, qui rejoindra cette équipe. Et quelques conservateurs qui, au sein des départements de conservation, ont joué un rôle plus spécifique dans le cadre du Louvre-Lens. Mais ça a été une mobilisation générale parce que c'était vécu très vite, je dirais, dans un musée qui était un musée très cloisonné. Quand je suis arrivé, c'était, autant de départements que de musées, en quelque sorte. Chaque département était son petit musée, sans porosité, en quelque sorte, avec les autres départements. Et tout d'un coup, il y a eu cette possibilité de travailler ensemble et de se découvrir, finalement, aussi bien humainement qu'en parlant de ses collections, et de proposer quelque chose en commun pour le Louvre-Lens. Donc ça a été vécu comme une expérience extrêmement excitante. Mais je dirais, à partir du moment où on a pu constituer cette équipe, qui était relativement agile, en quelque sorte entièrement réservée au projet, on a pu avancer très très vite, en lien évidemment avec les équipes de la région. Et ce qu'il faut dire, alors ça c'est aussi essentiel dans ce projet, mais ça Daniel le dira évidemment mieux que moi, c'est qu'au-delà, je dirais, de notre communauté d'esprit entre Daniel et moi et de notre conviction entièrement partagée, il y a eu du côté de la région, je dirais aussi bien de l'équipe technique qui a été mise en place que des élus, une unanimité sur le Louvre-Lens.
Oui, unanimité. L'équipe de la région, l'Assemblée régionale, avait un immense respect pour la légende, pour le rayonnement, mais aussi pour l'intelligence collective du Louvre. C'est-à-dire que nous avons avancé, comme le dit Henri, relativement vite, du même pas, mais que nous étions à notre place. Le Louvre à la première place, puisqu'il nous apportait ce miracle de son talent collectif et de son rayonnement irremplaçable, et nous, là où nous devions être, vis-à-vis de notre population, vis-à-vis de la réalisation, et vis-à-vis aussi de ce que j'appellerais une forme d'humilité indispensable. Nous ne nous sommes pas fait plus grand que le Louvre, et c'était très important. Au même instant, je voyais parfois, quand je discutais avec mes collègues en Lorraine, la tentation vis-à-vis du musée Pompidou, en quelque sorte, je ne dirais pas de traiter d'égal à égal, mais enfin, d'exister coûte que coûte. Et ça ne s'est jamais produit entre nous. Et je pense que le Louvre en était le principal responsable. Nous étions en harmonie, chacun à notre place, pour réaliser ce miracle.
Le troisième pilier, c'était évidemment l'architecture. C'était l'architecte et c'était l'équipe de Sanaa avec qui ça a tout de suite bien marché. Mais c'est sans doute des questions que vous nous reposerez.
Le Louvre, Lens, du rêve à la réalité.
Alors nous allons écouter maintenant Jean-Marc Terrasse qui s'exprime à propos du choix de Lens. Parce que ce choix du site de Lens, qui paraît à vous entendre avoir été finalement de soi, il n'était pas si évident à l'époque. Et il a suscité aussi des réactions assez vives et parfois assez drôles au moment de son annonce. Donc j'aimerais qu'on écoute Jean-Marc Terrasse, responsable de l'auditorium à l'époque du musée du Louvre et très engagé dans le projet du Louvre-Lens.
Au départ, je vous signale, je vous rappelle, peut-être que Lens n'était pas forcément le premier choix dans la région. Et quand le choix de Lens est fait, nous-mêmes, on était un peu interloqués. Et en même temps, ce défi supplémentaire de devenir ici à Lens nous a paru comme vraiment quelque chose de très intéressant. On n'était pas à Valenciennes, on n'était pas à Arras, on était à Lens. Et c'était vraiment, et ça je pense que c'était un choix réellement qu'on a compris du dialogue entre Henri et Daniel Percheron, entre Henri Loirette et Daniel Percheron. Et d'être délibérément sur ce carreau de mine, à cet endroit, dans ce contexte-là.
Alors Jean-Jacques Aillagon aime beaucoup à nous rappeler, lorsqu'il vient ici, il est toujours membre du conseil d'administration du Louvre-Lens aujourd'hui. Nous sommes venus à Lens parce que c'était le plus difficile. Et j'aimerais que vous nous expliquiez comment s'est fait ce choix, qui a choisi, en fait, à ce moment-là, le site de Lens, même si nous l'avons bien compris, c'était un petit peu votre site de cœur à tous les deux dans ce concours. Daniel Percheron.
Ah, je pense que celui qui a permis sans émotion particulière, avec une apparente simplicité qui fait penser aux fables de La Fontaine, hein, dont la conclusion morale semble évidente, c'est le président directeur du Louvre. Il avait mille fois l'occasion, dans ses entretiens, soit particuliers, dans ses prises de position, dans son dialogue avec son personnel, de dire « Oui, vous avez raison, ce n'est pas simple. Hein, » voilà. Et il ne l'a jamais fait parce que, comme l'a dit Henri tout à l'heure, il a cru dès le début l'intuition que Lens pouvait être cette expérience originale et féconde. Donc c'est ce fil d'Ariane qui a amené le président de la République à dire, conforté par ses ministres de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, Donne-Dieu de Vabre, ouais, dire finalement je choisis Lens. Et Jean-Pierre Raffarin, qui était au Stade Bollard et qui est venu vous rendre visite le lendemain, il y a un mois à peu près, un mois et demi, me disait le plus difficile était de contenir les ministres candidats. Et Jacques Chirac lui a dit, la seule chose, tu vas à Lens, que je te demande, et que les élus locaux, qui ne sont pas les miens, qui sont socialistes, et à Lens, je rappelle toujours que Jacques Chirac avait fait 6% au premier tour, hein, donc par conséquent, il n'était pas chez lui, que les élus locaux comprennent bien que moi je vais choisir Lens, j'ai choisi Lens, mais que je ne veux pas d'ennui.
Il faut rajouter aussi, c'était pas, je dirais, effectivement, c'était notre choix de cœur, mais c'était aussi un choix raisonné. L'implantation à Lens, c'était aussi un site, et un beau site. Et Daniel le rappelle, on a vu plusieurs sites dans la région Nord-Pas-de-Calais, puis celui d'Amiens. Celui-là était exceptionnel, je dirais, l'emportait de beaucoup par sa qualité sur les autres sites. La région Nord-Pas-de-Calais, la situation de Lens permettait, je dirais, au cœur de cette grande région, à proximité de la Flandre, de la Belgique, effectivement, d'espérer aussi un rayonnement international. Donc il y avait aussi beaucoup d'atouts, je dirais, du côté de Lens. Le choix n'a pas été facile, parce que je me souviens très très bien, vous citiez Daniel Jean-Pierre Raffarin, il m'avait demandé à venir le voir, parce qu'il m'avait fait à ce moment-là un grand plaidoyer pro-Valenciennes, poussé par derrière par Jean-Louis Borloo, qui devait être ministre à cette époque-là.
Il était ministre et influent,
mais il s'était décidé très très tard. Et puis dans ce cas-là, et puis moi je dis non, c'est Lens. Et le choix final, comme le rappelait Daniel Percheron, ça a été fait par Jacques Chirac, qui est un beau choix. On dirait aujourd'hui un choix républicain, c'est-à-dire que c'était véritablement choisir une ville socialiste dans une région socialiste, au détriment, si je puis dire, de ses ministres et de ses amis politiques.
Et de villes qui étaient estimables.
Absolument. Mais qui avaient l'une et l'autre, aussi bien Valenciennes qu'Amiens, grâce d'ailleurs à la politique de leur maire, de magnifiques musées. Donc il y avait quelque chose de redondant quand même à aller dans.
C'était une partie de mon raisonnement.
C'est aussi quelque chose qui arrive à Metz. Metz, c'est très différent d'implantation. Vous le citiez tout à l'heure, Marie. Mais c'est une ville quand même qui a un gros patrimoine, qui est une capitale régionale, qui a une histoire prestigieuse sur plusieurs millénaires, j'allais dire. Et puis qui a un musée, un opéra. Lens, c'est rien de tout ça. Hein, c'est rien de tout ça. Donc ça, c'était évidemment quelque chose qui a fait que Lens l'a emporté, je dirais, très naturellement.
Ouais. Monsieur Raffarin me disait, c'est formidable, le Louvre, c'est formidable. C'est formidable. Il a été impressionné par le Louvre, et je pense que quelque part, quand je lui ai avoué que je me sentais un peu un émir du pétrole, en ayant les deux rêves de l'émir, le club de foot et le plus grand musée du monde côte à côte, il a été impressionné, il m'a dit, c'est vrai, c'est impressionnant de voir ces réalisations. Mais la beauté du Louvre l'a impressionné.
Jean-Pierre Raffarin est venu il y a quelques semaines, d'ailleurs,
avec quelques
une dizaine
semaines,
d'amis.
Il est venu. Il n'était jamais venu.
Tout à fait. Il n'était jamais revenu.
Ouais. Ah ouais.
En choisissant le site de Lens, vous choisissez aussi un site dont l'emprise dépasse a priori celle du futur bâtiment, puisque le musée du Louvre-Lens s'inscrit dans ce parc aujourd'hui de plus de 20 hectares sur cet ancien site minier. J'aimerais, Henri Loirette, que vous nous racontiez, si vous en gardez un souvenir, la première fois que vous l'avez découvert, ce site et ce terrain, cette friche industrielle qui était proposée.
Je suis arrivé à la gare de Lens, que j'ai trouvé absolument magnifique. Et encore tout à l'heure, en venant, je me dis vraiment, c'est quelque chose d'admirable. J'étais arrivé un peu avant, j'ai fait un tour dans Lens, que j'ai trouvé une ville tout de suite attirante, je dirais, avec quelque chose qui m'a très émouvant, j'allais dire. Véritablement, c'est une impression qui a perduré. Et je suis arrivé sur ce site, qui n'est pas du tout celui que vous connaissez maintenant, hein, qui a le confort moderne en quelque sorte. C'était une friche, effectivement, mais on sentait un site extrêmement fragile, je dirais, avec ces petits arbres, quelque chose d'un tout petit peu grêle, mais cette espèce de podium aussi qui dominait et la ville, et surtout avec cet arrière-fond des grands terris de Los Angeles. Ce qui fait qu'on avait une perception immédiate de ce qu'était cette région, en quelque sorte qu'on comprenait tout en venant là-dessus. Et cette fragilité, c'était terrain qui avait été creusé, qui avait été aussi terrain de mine, si je puis dire, et tout ça était présent, en quelque sorte. Et c'est une chose qui m'a beaucoup frappé dans cette région à chaque fois, en Picardie, dans le Nord-Pas-de-Calais, parce qu'on a fait des visites avec Daniel, on est allé voir. Je dirais, c'est cette présence de l'histoire et d'une histoire récente qui n'est pas enfouie, enfin, qui affleure sur le sol. C'est effectivement ces traces de la mine que l'on retrouve, ces grands terris, c'est aussi les grands cimetières, par exemple, de la guerre de 14. Il y a quelque chose d'extrêmement particulier et prenant dans toute cette histoire qui est visible, en quelque sorte, dans la morphologie même. Et ça, c'était très frappant, contrairement à d'autres sites que nous avons visités, très frappant dans le site proposé par Lens.
En quoi est-ce que cet ancrage justement physique, cette dimension minière, cette terre-là, apportait quelque chose au Louvre ?
Elle apporte quelque chose au Louvre parce qu'elle suscite d'autres réflexions justement sur ses missions, sur son pourquoi, ces grandes questions, je dirais, que se pose tout homme, mais aussi tout musée. Enfin, d'où venons-nous, où allons-nous, en quelque sorte. Ces grandes questions existentielles sont posées, je pense, de façon particulièrement aiguë sur un terrain, comme je le rappellerai d'entrée, qui a souffert de toutes les crises et de toutes les guerres. Ce que nous incarnons, nous, c'est une permanence, je dirais, centenaire, millénaire, quasiment, je dirais, parlant des collections, parlant de ce substrat, en quelque sorte, profond des collections du Louvre. Et c'est aussi quelque chose qui a conduit, en quelque sorte, le projet même, le projet de la Galerie du Temps, parce que nous apportions à Lens, alors, non pas une histoire, parce qu'il y avait une histoire récente et une histoire bouleversante, mais peut-être ce qui manquait, je dirais, de profondeur de cette histoire. On citait une ville comme Metz ou bien d'autres villes en France qui n'avaient pas ce passé, ou du moins ce passé visible. Et ça conduira, je pense, beaucoup notre réflexion sur la Galerie du Temps, c'est-à-dire apporter en quelque sorte cette profondeur, cet enracinement, cette distance, longue distance en quelque sorte, ce que Peggy appelait admirablement le long cheminement de l'humanité, qui est peu visible effectivement dans des territoires comme celui de Lens.
Alors parlons peut-être effectivement de la Galerie du Temps, puis nous reviendrons peut-être sur le concours d'architecture. Cette Galerie du Temps qui apparaît vraiment aujourd'hui comme le cœur du réacteur, si j'ose dire, ou plutôt d'ailleurs le cœur battant du Louvre-Lens. Quelle a été la part de chacun dans cette révolution muséale, muséographique de la Galerie du Temps, où le musée renonce à tout ce qui fait sa structure habituelle, la structure de son discours, ses cimaises, ses murs, ses ailes, ses départements, sa médiation écrite? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-on pu aller aussi loin? Comment a-t-on pu en arriver là?
Mais ça, c'était, je dirais, le principe même du Louvre-Lens, pas uniquement dans la Galerie du Temps, parce que c'est une chose pour moi qui m'a encore frappé en me promenant dans ce musée, c'est que nous avons voulu, et avec Sanaa, et puis avec évidemment la réflexion aussi de Daniel et de l'ensemble de la région, un musée complètement ouvert, c'est-à-dire qui renouvelle aussi globalement l'idée même de musée. D'où, par exemple, les réserves visibles et visitables, c'est-à-dire que on montrait en quelque sorte quel était le substrat d'un musée, sur quoi il se reposait. Les réserves, ce n'était pas uniquement une sorte de mouroir dans lequel on entassait les œuvres qui, de temps en temps, prenaient l'air. C'était véritablement le cœur même des collections de notre métier, la permanence des métiers aussi qui étaient appliqués au musée et qui devaient être visibles. Et donc, je dirais, il y avait une espèce de visibilité de tous les métiers, de toutes les collections, des collections du Louvre, et de réaliser encore une fois ce qui était impossible dans le Palais parisien. Palais parisien qui n'est pas un musée à l'origine, donc il y a généralement une difficulté d'adéquation entre, bien évidemment, entre le palais et le musée, et qui pour toutes sortes de raisons, y compris et d'abord ces collections extrêmement nombreuses, des collections encyclopédiques, a justement reçu un classement encyclopédique, c'est-à-dire que par département, par école, par technique, et que finalement rien n'est confondu, rien n'est comparé. En quelque sorte. Et je le disais tout à l'heure, c'était autant de musées, autant de départements. Donc l'idée de pouvoir enfin travailler ensemble, de pouvoir montrer, rapprocher ce qui, pour l'instant, n'était jamais rapproché dans le Palais parisien, de distinguer aussi des plaies, en quelque sorte, les œuvres une par une. Ça, je crois que c'est très important, et très important dans la Galerie du Temps, c'est que vous n'avez jamais un ensemble dans lequel, finalement, vous discernez mal les vôtres. Je dirais, vous avez du mal à attirer votre attention sur une œuvre précise, ces vitrines extrêmement abondantes, je dirais, où le public, sans doute, a parfois du mal, je dirais, à véritablement fixer son regard sur telle ou telle œuvre. Là, on y on donnait à chaque œuvre, en quelque sorte, sa présence, sa raison d'être. Et je dirais, vous savez, les œuvres d'art, on le sait depuis Balzac, elles sont pas passives, elles vous attirent, elles font comme le rappelait le cousin Ponce, pchit-pchit, c'est-à-dire qu'elles vous font signe. Et je pense que dans la Galerie du Temps, effectivement, les œuvres vous font signe. Et ça, c'était très important, c'est-à-dire qu'on leur redonnait à chacun son contexte et sa dignité.
Alors, il y a eu un concours d'architecture international qui a permis donc l'élection de l'agence Sana, qui a signé cette architecture pour laquelle aujourd'hui, il faut le savoir, on vient de l'autre bout du monde pour voir cette architecture. Daniel Percheron, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce concours ?
Mais Henri vient de dire à quel point le Louvre-Lens était aussi... le Louvre Henri Loirette, c'est-à-dire que dans la Galerie du Temps, Henri a en quelque sorte réussi ce qu'il souhaitait réussir. Au début, j'ai écouté, moi qui suis bien entendu un pratiquant raisonnable des musées, j'ai écouté ce qu'il vient de nous dire. Et qu'il expliquait même sur place, ce dialogue des œuvres, cette flânerie parmi les chefs-d'œuvre de l'humanité, cette continuité telle qu'il vient de la rappeler à travers Peggy. Et je dois vous dire que j'étais un peu circonspect. Je n'étais pas sûr. Je n'étais pas sûr qu'Henri Loirette avait raison. Bon, et petit à petit, cette idée s'est imposée. Et à partir du moment où cette idée s'imposait, il est vrai qu'il était légitime qu'Henri Loirette pèse de tout son poids pour que l'architecture l'accompagne. Moi-même, je ne vous cache pas, comme j'avais une référence Guggenheim Bilbao, la verticalité me séduisait éventuellement. Et j'ai mis longtemps à me résoudre à la simplicité enthousiasmante et l'horizontalité de Sanaa. Mais je pense que sur ce point, Henri Loirette a eu 100 fois raison. Je pense même, quand je regarde maintenant l'actualité des musées, je pense même qu'il y a avant le Louvre-Lens et après le Louvre-Lens dans la création des musées à travers le monde. La flânerie telle qu'il l'a imaginée, le dialogue des œuvres, ce contact et cette sorte de raccourci de la beauté de l'humanité sont incomparables. Et au fond, si j'étais maire de Lens, mais il est beaucoup plus présent et beaucoup plus efficace que moi, je rappellerais sans cesse, communication à l'appui, que la Galerie du Temps est unique au monde. Unique au monde.
Le concours, c'est vrai, était un tout petit peu déroutant. Finalement, il y avait le projet Sanaa, il y avait les autres. Et je pense que la réflexion, enfin, ce qui fait que j'ai vraiment poussé mais je dirais vraiment d'enthousiasme le projet Sana dès que je l'ai vu. C'était aussi son adéquation au site. Vous l'avez rappelé, Marie, on est sur un site qui est un site fragile. On est sur un site qui n'est pas tonitruant. On n'est pas sur une espèce d'acropole. Oui, sur un podium, mais je dirais au milieu d'une nature qui était alors une nature malingre, dans un paysage quand même qui était... Voilà. Et on ne pouvait pas effectivement avoir quelque chose d'arrogant, de tonitruant. Il y avait cette nécessaire humilité de la façon de se poser sur le terrain était quelque chose d'extrêmement important. À partir du moment aussi, et ça c'était capital, je dirais, dans notre réflexion à tous les deux, c'était qu'on voulait un musée accessible. C'est-à-dire un musée... Vous savez, dans le Palais parisien, c'est compliqué d'aller au Louvre, vous le savez. Je me souviens que Catherine Guillou nous le disait, qu'une des questions qu'on nous posait le plus, qu'on posait avant d'aller au Louvre, c'était comment faut-il s'habiller pour aller au Louvre ? Vous comprenez tout. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une espèce de barrage, de difficulté à entrer dans ce palais dont on avait ignoré le mode d'emploi, par ailleurs, et que l'on imaginait compliqué, avec l'idée « c'est pas fait pour moi ». Donc cette question de discrétion, d'harmonie avec le paysage, ce paysage qui se reflète effectivement dans l'architecture de Sanaa, un musée de plein pied, un musée dont vous comprenez immédiatement l'agencement, dans lequel vous pouvez rentrer comme naturellement, je dirais, vous vous promenez, les portes s'ouvrent, vous entrez. Enfin, c'est pas compliqué d'aller au Louvre-Lens. C'était quelque chose, c'était évidemment quelque chose d'essentiel. Et ça a beaucoup, beaucoup joué. Ensuite, il y avait la beauté architecturale qui, pour moi, était évidente, immanente. Enfin, c'était quelque chose, je le voyais, je dirais, quand il est entré en compétition, en quelque sorte. Et ça, c'était aussi quelque chose qui a beaucoup joué, je dirais, qui l'a finalement emporté. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, attendez, il faut rappeler simplement aussi une chose, c'est que Sanaa, c'était personne à l'époque. C'était,
exact.
Vous aviez des grands noms de l'architecture. Et c'est après que Sanaa a eu le prix Pritzker, est devenu les architectes internationalement renommés que vous mentionnez. Avec Daniel, on est allé ensuite à Kanazawa voir ce musée, etc. Mais il fallait faire le pèlerinage au Japon pour voir de l'architecture de Sanaa.
Absolument.
Donc il y avait aussi, je le comprends légitimement, qui sont ces gens ? On ne les connaît pas, et on ne les connaissait pas.
Et Rudy Ricciotti était particulièrement actif. Hein ? Bon.
Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.
Alors j'aimerais peut-être que nous puissions terminer notre entretien sur des questions peut-être un petit peu plus personnelles. Vous êtes tous les deux d'immenses capitaines de vaisseaux. Vous allez former une équipe exceptionnelle à la tête de ce projet exceptionnel. Je pense qu'il le fallait, sans ça ce projet n'aurait pas émergé. Comment s'est forgé votre équipe ? On sent aujourd'hui évidemment beaucoup de complicité, beaucoup d'estime, beaucoup d'amitié aussi entre vous. À mon avis, là réside l'un des secrets de ce projet. Comment ça s'est passé ça ?
Vous avez compris en écoutant Henri qu'elle s'est formée naturellement. Il y avait Mbappé dans le domaine de la culture. Et moi, avec le cumul des mandats, avec mon parcours interminable de militant socialiste, j'étais un peu Didier Deschamps, hein, d'accord ? Ce qui veut dire que je n'avais pas l'habitude de perdre, ni les élections, ni les congrès, mais j'étais très attentif au fait que ce n'était pas moi qui mettais les buts victorieux. Et quand j'écoutais Henri... Hein, s'exprimer au nom du Louvre depuis 1793, la naissance glorieuse, jusqu'à aujourd'hui, hein, et son dialogue avec Lens, dont je rappelle que la ville a reçu la Légion d'honneur et a été détruite à 99,9% entre 14 et 18, je savais exactement que le projet, sous la conduite d'Henri, serait victorieux et qu'il ne fallait en aucun cas le privé d'inspiration et le privé de la possibilité d'aller au bout de ce rêve qu'est le Louvre-Lens et de ce rêve qu'est la Galerie du Temps.
Mais il y a eu des
donc
équipes.
On a gagné la Coupe du Monde
oui,
de foot comme
mais
ça
il y avait des
et
équipes,
on a gagné le Louvre
des
comme
équipes
ça.
Derrière nous, bien évidemment.
Oui, bien
vous
sûr.
Avez rappelé les.
Oui, mais enfin, il a fallu les entraîner.
Il a fallu les. Oui, mais ça s'est fait assez naturellement. Vous savez, une fois qu'ils ont vu, je dirais, qu'ils ont compris. Je pense qu'on mordait immédiatement au projet. Je n'ai pas eu à forcer beaucoup de gens. Il y a une petite cellule, effectivement, du côté du Louvre. Ensuite, évidemment, tout le monde y a participé à sa juste place. Mais il y a une petite cellule de personnes qui a suivi ce projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et encore une fois, dans tous les secteurs, c'était les grands directeurs du Louvre, non seulement les directeurs du département, mais vous avez cité Jean-Marc Terrasse, vous avez cité Catherine Guillou, par exemple, qui ont joué aussi un rôle essentiel dans ce développement. Et puis, il y avait, il faut bien le dire, je dirais, le plaisir, tout simplement, que l'on ressentait à venir dans cette région, l'accueil que vous connaissez maintenant, puisque vous y vivez, chère Marie, de cette région, cette particularité, simplement la gentillesse, le fait qu'on était bienvenu.
Ah oui.
Et je crois que c'était quelque chose d'extrêmement important. Et je dois dire que, bon, à Paris, c'était quelquefois difficile. Je venais deux fois par semaine au Louvre-Lens, et à chaque fois avec un bonheur intact. Lens et la région, je dirais. Ça, c'était aussi important. J'en ai profité pour beaucoup visiter la région où, à l'évidence, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une particularité. Il y a quelque chose d'extrêmement attachant, je dirais, aussi bien chez les habitants que dans ce qui s'y fait, en quelque sorte. Et ça, c'était évidemment quelque chose qui a énormément joué. On a été porté, en quelque sorte. Alors, ce n'était pas difficile. Quand vous êtes dans un stade, j'imagine, moi, je ne vais jamais dans un stade. Donc,
oui.
Je reprends votre métaphore et que vous êtes porté, je dirais, par ce public, vous faites des merveilles.
Oui.
Alors, Henri Loiret, vous avez présidé le musée d'Orsay, vous avez présidé le musée du Louvre, vous avez eu une carrière exceptionnelle avec deux des plus beaux, des plus grands musées du monde. Est-ce que justement, dans cette accueillance de la région, dans ce site un peu exceptionnel et à profondeur d'histoire, réside la raison pour laquelle vous êtes tant engagé dans ce projet? Qu'est-ce qu'à titre personnel ça vous a apporté, ce projet?
Énormément. Je ne le présentais pas puisque je ne savais pas du tout ce que je trouverais, mais vous savez, une chose qui m'a toujours guidé, je le rappelais à Daniel tout à l'heure, c'était j'ai jamais eu un plan. C'est-à-dire, c'est une phrase très belle de Goethe au début de Wilhelm Meister qui disait: je suis comme Saül, fils de Kish, qui était parti pour chercher les ânesses de son père et qui a trouvé un royaume. Et c'était très exactement ça. Je suis, je dirais, conservateur. J'ai commencé j'étais jeune, j'avais 21 ans. J'ai fait mon métier correctement, avec des postes que vous avez rappelés qui m'ont enthousiasmé, que j'ai essayé de tenir, je dirais, aussi bien que possible. Mais à chaque fois, je dirais, j'avançais et émerveillé, je trouvais quelque chose. Et là, ça a été pour moi, je dirais, entre 2003 ou 2004, je ne sais pas, jusqu'à 2013, effectivement, 10 ans d'aventure et d'émerveillement. Et il est intact. Il est intact parce que quand je reviens ici, ça fait longtemps, confinement oblige, que je n'étais pas revenu, je vois ce bâtiment, je vois ce que vous y faites, je vois cette vie, je vois ces habitants. Et l'émerveillement est là. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose quand même et que je ne me suis pas trompé. Alors finalement, quand on est, je dirais, quand on devient un vieux monsieur comme moi, c'est quelque chose de bien agréable.
Daniel Percheron, nul n'ignore que vous avez un lien personnel avec la ville de Lens. Là encore, pour un homme politique de votre envergure, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet? Parce que vous avez pris tous les risques, vous avez convaincu tout le monde, on n'en parle pas beaucoup, mais il fallait quand même convaincre toutes les parties politiques en présence. Il fallait. Quel a été votre moteur dans cette aventure?
Mon moteur, bon, comme vous l'avez dit, je suis un Lensois. Hein, et par conséquent, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 25 ans dans une cité minière qui se trouve à moins d'un kilomètre d'ici, à la cité 12 de Lens. J'étais très heureux d'ailleurs, fils d'instituteur, j'étais supporter du Racing Club de Lens. Mais bien entendu, témoin et puis élu très tôt acteur de l'interminable désindustrialisation, de l'interminable paupérisation de mon territoire. Et le fait, à un moment donné, de pouvoir faire en sorte que, par exemple, le plus grand musée du monde vienne au cœur du bassin minier, hein, dans cette ville exsangue en grande partie, oui, est une formidable revanche sur le cours de l'histoire. Le fait d'avoir côte à côte le Stade Bollard, que nous avons pu sauver de la faillite et de la mort économique à l'heure de la mondialisation, et qui aujourd'hui communie avec la même ferveur, oui, pour l'avenir du bassin. C'est aussi un parcours tout à fait, comment dirais-je, légitime. Justice est faite. C'est pourquoi, à la fin de ces mots, j'espère que les élus, la nouvelle génération, mesurera bien, elle à qui ça n'a pas coûté un centime à Lens, hein, le privilège qu'elle a eu d'accueillir à la fois l'histoire, le Racing Club de Lens, les corons, l'hymne, et puis le plus grand musée du monde sur 2 km², au cœur de ce qui a été un peu la désespérance territoriale.
En tout cas, ce dont je crois pouvoir vous assurer, c'est que, à la fois évidemment les équipes qui travaillent ici au quotidien, et puis évidemment les visiteurs qui viennent nombreux, les habitants, les promeneurs dans le parc, eux sont conscients de ce miracle. J'aime à vous citer Daniel Percheron, je vous ai entendu dire un jour, les miracles, ça n'existe pas, et pourtant le Louvre-Lens existe. Et pourtant le Louvre-Lens existe. Oui, mais pour les miracles, il faut des faiseurs
de
miracles.
J'écoutais Henri, et en l'écoutant, on comprend, hein, parce que même au conseil régional, où le projet est passé de justesse, 22-22, c'est ma voix prépondérante qui a déclenché le projet. Ce qui ne veut pas dire que les oppositions étaient bêtes et méchantes, hein. Elles étaient intelligentes et constructives, mais elles réfléchissaient avant de dire oui. Je n'ai jamais entendu une remarque désagréable à l'égard de l'arrivée du Louvre, à l'égard de l'ambassade du Louvre, et surtout à l'égard de cette pédagogie, de cette pédagogie remarquable qu'Henri développait à chaque intervention. J'ai parlé de La Fontaine. Au fond, même si, comme le dit Henri, il y a une part d'intuition, d'improvisation, la simplicité du Louvre dans tous les domaines et de son aventure lensoise fait penser à une fable de La Fontaine où la morale semble évidente, c'est que Lens méritait ce miracle et que ce miracle a bien eu lieu.
Dans la prochaine partie de ce podcast, nos invités, Henri Loirette et Daniel Percheron, s'exprimeront sur le concours d'architecture et sur le projet architectural du musée du Louvre-Lens mené par l'agence japonaise Sana. Et je vous invite, chers auditeurs, à poursuivre votre écoute.
Le Louvre, Lens. Du rêve à la réalité.